de sainteté. Viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser.
Amen. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver pour ce cours biblique. Il y a une élève qui vient me demander... qui vient me demander quoi ? Le poli, il est là, oui. Voilà. Le premier cours, il y a le premier cours ?
Non, mais on m'a donné le premier cours.
Ah ben c'est une erreur, je vais le récupérer alors.
Non, je vais le prendre.
Je vais le récupérer. S'il y a des premiers cours, je voudrais savoir.
Non, vous savez, c'est pas le premier cours, ça.
Voilà. Action générale. Voilà. Ah ben voilà. Bonjour Marc. Voilà, ça c'est le premier cours.
Ah, le premier cours marche bien.
Est-ce que vous avez encore le premier cours ?
Voilà, il y a le premier cours. Voilà, alors on commence maintenant parce que après, si on termine plus tard, c'est... Voilà, alors, est-ce comme je vous avais proposé la dernière fois de venir avec les questions, si vous en avez, avant de commencer le cours. Des questions sur le cours précédent. Voilà. Est-ce qu'il y a des coups ou des questions sur le cours précédent ? Voilà. Pardon ?
Est-ce qu'il va être mis sur
Internet ? Mais oui. D'accord, ben si vous le... Très bien, il sera mis sur Internet. Donc pour l'instant, il y a du retard pour les... Parce que je n'ai plus d'ordinateur, et donc quand j'aurai un ordinateur, je pourrai envoyer de nouveau les... Voilà, envoyer de nouveau les cours. Alors, il y a une question ici, oui.
Je croyais qu'à la messe, l'Ancien Testament qui était lu n'avait rien à voir avec l'Évangile. Je me suis aperçu dimanche dernier, finalement, il y a plein de...
Exactement. Tout le monde a entendu ? Voilà. Donc je traduis. Donc madame n'avait pas bien perçu jusque-là qu'il y avait des connexions fortes entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Et alors le cours, la dernière fois, l'a aidé à comprendre qu'il y avait beaucoup de liens. On le voyait dimanche dernier. Vous savez que un des aspects de la réforme du Concile de Vatican II, de la réforme liturgique, il y a eu beaucoup de choses, souvent mal comprises, parce qu'on a retenu ce qui n'avait pas fonctionné, ce qui avait été surtout mal mis en œuvre. En réalité, c'est une réforme qui est très riche et qui a repris notamment des éléments repris aux liturgies de l'époque des Pères de l'Église ou du Moyen-Âge. Hein. Ce qu'on appelle la réforme liturgique, ça a été aussi un retour aux sources, c'était pas mal ça, notamment la valorisation de la liturgie de la parole et... selon une intuition fondamentale au niveau de la foi de l'Église, je parle bien de la foi de l'Église, pas uniquement l'intérêt de lire la Bible, mais la foi de l'Église, c'est que quand Jésus vient, donc Jésus c'est l'Évangile, il s'inscrit dans une histoire où Dieu s'est engagé depuis la création et particulièrement depuis Abraham. Si on n'a plus cette vision historique, on est, alors je caricature énormément, mais on est un petit peu soit comme une philosophie, soit comme l'islam, avec l'idée d'un Dieu qui parle de façon verticale, c'est à prendre ou à laisser, mais ça laisse l'homme très démuni par rapport à son histoire, par rapport à ses difficultés. Or Dieu se révèle sauveur, il accompagne une histoire. Dieu se révèle dans une histoire. C'est la grande conviction des pères de l'Église qui commente l'Ancien Testament, non pas parce qu'on y trouve des exemples pour parler du Nouveau, mais parce qu'il voit que Dieu s'est engagé dans cette histoire. Et donc, je vais vous le montrer, je vais essayer de vous le redire ce soir avec Josué, mais ce qui s'est passé, je prends l'exemple le plus marquant avec la traversée, la libération d'Égypte et la traversée de la mer Rouge, ce n'était pas uniquement un exemple de ce qui allait se passer après, mais c'est un événement qui compte pour le salut. Voilà, qui n'a concerné qu'Israël, mais à travers Israël, c'était déjà les nations qui commençaient à découvrir le vrai Dieu. Voilà. Et donc, à la messe, on a toujours voulu garder l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, c'est sûr que la liturgie, jusqu'à Vatican II, il y avait une première lecture qui était rarement l'Ancien Testament. Je pense pas que je connais très mal cette liturgie, hein. Ou peut-être pas du tout, voilà, très peu, sauf peut-être à la vigile pascale. Ou, voilà. Et c'est sûr que Vatican II a dit qu'il faut qu'il y ait l'Ancien Testament et une épître de saint Paul. En général, quelquefois, c'est une répartition un peu différente. Voilà. Il y a un enjeu théologique énorme pour comprendre que la vérité chrétienne, c'est une vérité qui s'inscrit dans une histoire qu'on appelle l'histoire de salut. Voilà. Il y avait une autre question ?
C'est dans cette mesure-là qu'on ne peut pas opposer la foi et la raison.
Exactement, on ne peut pas opposer la foi et la raison. Et la foi, elle est le fruit d'une aventure de Dieu avec son peuple. Dieu se révèle et il donne à l'homme la capacité de le comprendre. C'est là que la raison intervient. Et il y a eu la rencontre entre le judaïsme et la pensée grecque. Mais le judaïsme avait avec lui cette vision beaucoup plus historique qui reste fondamentale pour les chrétiens. Voilà. Ah, il parle tout le temps. Moi, les gens qui disent Dieu, il dit rien, je dis mais attendez, est-ce que vous lui laissez la parole, hein? Souvent, on est tellement bavard qu'on oublie, d'où l'importance du silence. C'est pour ça que dans les monastères, il y a le silence, l'oraison, c'est silencieuse. Alors, Dieu parle à travers les Écritures expliquées, à travers la liturgie, à travers notre conscience, à travers notre cœur. Voilà.
Le prophète, il parle sous quelle forme ?
Alors. Là, on va parler de Josué, mais vous avez, voilà, je retiens quand même la question vraiment importante que vous avez posée. Une dernière question, ça va ? Vous en avez d'autres ? Très bien, eh bien nous y allons, c'est parti pour Josué. Voilà, c'est avec Josué que nous commençons la série des figures annonciatrices du Christ dans l'Ancien Testament. Hein. Cette année, c'est les figures de l'Ancien Testament, et votre intervention nous rappelle que ces figures, ce n'est pas uniquement des exemples du passé, mais c'est des événements annonciateurs, mais où déjà on peut dire que le Christ s'engage. Alors pourquoi Josué ? Pour deux raisons. D'abord parce que le livre de l'Exode demandait une conclusion. Ceux qui ont suivi le cours sur l'Exode l'an passé, je me suis posé la question, quel dénouement vais-je donner ? Est-ce que cette année, j'ai pensé à un moment faire toute une année sur l'arrivée en terre promise, sujet passionnant, qui n'est pas forcément le plus important. Bon, je me suis dit, est-ce qu'on passe aux prophètes ? Et puis j'ai finalement, les figures dans l'Ancien Testament, c'est une bonne manière de montrer la continuité avec l'Exode, mais c'est bien Josué qui conclut l'histoire de l'Exode, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Il y a une deuxième raison qui est plus importante, c'est que avec Josué, nous découvrons un thème très très important, un mot très important qui est présent dans, par exemple chez saint Matthieu, chez saint Luc, c'est que nous entrons dans une histoire d'accomplissement. Hein, accomplissement. Le Seigneur accomplit ce qu'il a dit. Hein, il a promis et il le fait. Hein, je l'ai dit et je le ferai. Alors Josué, vous avez, on peut dire que c'est le premier grand accomplissement d'une promesse, la première promesse faite à Abraham qui apparaît clairement avec Josué. Hein, et on va voir comment Dieu vient sauver son peuple en accomplissant ce qu'il a promis. Alors, le plan est extrêmement simple, et il en sera de même pendant toute l'année. Grand 1, c'est la figure de l'Ancien Testament. Grand 2, c'est le Christ. Voilà, à quelques exceptions, ce sera comme ça. Le plan est trompeur. Ou plutôt, la répartition des masses est trompeuse. Vous avez vu que le numéro 1, ça fait 2,5 pages. Le numéro 2, ça fait une demi-page. Mais le numéro 2 sur le Christ ne fait que recueillir ce qui était déjà contenu dans l'Ancien Testament. Donc, en découvrant Josué, il y a un travail que je vous laisserai faire, que je n'ai pas formalisé dans la feuille, dire, mais là, il y a peut-être quelque chose où c'est le Christ déjà qui est en train d'agir. Le Verbe de Dieu qui est en train d'agir. Il y a déjà quelque chose du Christ. Selon le principe théologique qui est donné dans l'Évangile selon saint Luc, quand Jésus est avec les disciples d'Emmaüs, il regarde dans l'Ancien Testament tout ce qui le concernait. Donc vous allez faire comme les disciples d'Emmaüs, on va découvrir Josué, vous dire, mais ça, peut-être que ça concerne Jésus. Et ça, peut-être que ça le concerne aussi. Ah, ça, peut-être moins. Vous voyez ? Voilà, et c'est là que vous entrez dans l'intelligence des Écritures. Tout d'abord, Josué, chef d'Israël, donc je regarderai la personne de Josué, et dans un deuxième temps, la question de l'événement qui accompagne Josué, la traversée de la mer et la prise de Jéricho, la conquête du pays. Voilà, tout d'abord Josué, chef d'Israël. La vie de Josué s'inscrit dans la suite de celle de Moïse. Alors ceux qui ont suivi le cours l'an passé se souviennent bien, on a beaucoup parlé de Moïse. Hein, ceux qui ne l'ont pas suivi, je pense que vous connaissez déjà bien Moïse et que ça vous donnera l'occasion de le découvrir encore davantage. Hein, c'est vraiment la grande figure importante de l'Ancien Testament avec Abraham. Voilà. Josué, on ne le comprend que, on peut dire, dans l'ombre de Moïse. Hein. Il est désigné dès le premier verset comme l'auxiliaire de Moïse. Vous voyez, Josué 1, verset 1. Voilà. Hein. Si vous ouvrez le livre de Josué, vous tombez sur, après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur parla à Josué, fils de Noun, l'auxiliaire de Moïse. Hein. Voilà. Ça le définit, ça permet de comprendre ce qui va se jouer. Josué est mis à part par Moïse, il l'accompagne dans la tente de la rencontre. Vous savez que la tente de la rencontre, c'est là que le Seigneur venait pour les grandes décisions qui concernaient la vie du peuple. Donc Josué est associé à Moïse, et c'est lui que Moïse désigne comme successeur. Il lui impose les mains, selon un geste biblique qui est connu, l'imposition des mains. Il transmet son autorité et son esprit. Et puis, quand on lit son histoire, j'espère que vous avez eu le temps de le faire, sinon vous pourrez le faire après, on voit Josué qui accomplit des exploits qui évoquent ceux de son maître. Hein. Il y a de nombreuses actions de Josué qui se réfèrent à celles de Moïse. La mission de Josué est décrite finalement comme un double de celle de Moïse. Et parmi les points de contact entre les deux personnages, on peut dire que le plus important, c'est la promesse du Seigneur, hein, qui lui dit « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » « Je serai avec toi », c'est-à-dire que ça fait de Moïse un médiateur. Vous vous souvenez, hein, au buisson ardent. Hein, Moïse qui a un peu peur, qui ne sait pas trop, c'est-à-dire « Je serai avec toi ». C'est une expression très forte. « Je serai avec toi », il y a l'idée d'une communion. Petite parenthèse méthodologique. Dans le Nouveau Testament, quand Jésus appelle les 12, il les fit venir à lui pour qu'ils soient avec lui, hein, être avec. Donc l'idée de la médiation, hein, on la retrouvera dans le Nouveau Testament. Voilà. Et le peuple l'a bien compris, et on voit bien l'importance pour Moïse, hein, de la réponse du peuple. Moïse est solidaire du peuple. Hein. Eh bien, le peuple qui a accepté de suivre Moïse va accepter de suivre Josué. Hein. De même que nous avons obéi en toute chose à Moïse, de même nous t'obéirons. Voyez ce système de parallèle qui fonctionne. Il faut ajouter cependant que Josué n'est pas le seul successeur de Moïse. Il ne reçoit pas toutes ses prérogatives, comme celle du sacerdoce. Il y a d'autres personnages, comme Aaron par exemple, qui vont recevoir une part de la mission de Moïse. Moïse est un personnage unique et inégalé dans toute l'histoire d'Israël. Voilà, il faut bien le comprendre. Pour comprendre le peuple d'Israël, pour comprendre la mission d'Israël, il faut voir le rôle tout à fait à part de Moïse, tout à fait unique. Il n'empêche que Josué, qui, comme je viens de vous le dire, va agir dans la continuité de Moïse, il agit selon un rôle bien défini. Et quel est ce rôle? C'est de faire entrer le peuple d'Israël sur la terre promise par Dieu. Voilà, la grande mission de Josué, ça va être de faire passer Israël du désert à la terre promise. Il y a comme ça des personnes dont la grande mission, c'est d'opérer un passage. Quand le cardinal Wojtyla a été élu pape en octobre 78, le 16 octobre 78, le cardinal Wyszyński, le deuxième cardinal polonais, plus ancien, son aîné, a dit au jeune cardinal Wojtyla, c'est toi qui auras à faire passer l'Église dans le nouveau millénaire. C'est beau, comme c'était un Josué, il y a quelque chose à... Et de fait, Jean-Paul II l'a fait de façon absolument époustouflante et admirable, comme un nouveau Josué. C'était sa mission, hein, faire passer l'Église dans le nouveau millénaire. Voilà. Eh bien, Josué, on peut dire que Moïse a dit à Josué, enfin c'est le Seigneur qui a dit à Josué, tu auras à faire passer Israël du désert. Et Dieu sait si pour Israël, le désert a été un lieu d'une importance capitale, un lieu fondateur, un lieu d'épreuve, le lieu de la redécouverte de la liberté, le lieu de la connaissance de Dieu. Midbar, l'écoute de la parole, c'est ça le désert, Midbar, l'écoute de la parole. Hein, c'est le mot désert, ça renvoie à la parole. Voilà. Eh bien, Dieu a fait une promesse, il a fait une promesse, et à un moment, la promesse va s'accomplir. Eh bien, c'est Josué qui sera là pour l'accomplissement, comme je vous disais, de la promesse. Voilà. Une autre... Voilà, puis j'ajoute aussi, Moïse n'entrera pas en terre promise. Ça, on pourrait faire un cours entier sur le fait que Moïse n'entre pas en terre promise. Voilà, ce sera Josué qui va le faire. Une autre différence de taille, c'est que Josué apparaît comme une figure idéale. Vous me direz, ben Moïse, le grand Moïse. Ben précisément, Moïse, non. Hein? Moïse, il s'énerve, il fait des bêtises. Et même s'il ne rentre pas en terre promise, le Seigneur dit, c'est parce que tu as péché. Hein? Il a tué un Égyptien. Vous direz, c'est pour la bonne cause. N'empêche que, voilà. Hein. En réalité, on insiste beaucoup dans le livre de l'Exode et les Nombres sur la solidarité entre Moïse et son peuple. Moïse, c'est un du peuple d'Israël. Voilà. C'est vrai qu'il a eu un lien avec Dieu tout à fait inégalé, hein, comme je vous l'ai dit. On peut dire qu'il n'y a que Abraham qui soit comme Moïse. L'un et l'autre ont connu cette intimité avec Dieu absolument unique, hein, mais il a été solidaire de son peuple au point de partager jusqu'à un certain point ses rébellions. Rien de tel chez Josué, qui bien sûr n'a pas connu la même intimité avec Dieu, mais on le voit du début à la fin de sa mission, il est sans hésitation, il est sans défaut. Hein. Et là, on arrive à quelque chose d'assez intéressant au niveau biblique. C'est que tous les personnages ne sont pas forcément les mêmes. Tous les personnages ne sont pas à prendre sur le même mode. Il y a des personnages qui ont une existence historique avérée, très forte. Et puis d'autres qui auront un rôle peut-être plus figuratif. Et c'est le cas de Josué. Josué est une figure idéale, mais il a moins d'épaisseur. On connaît moins son histoire. On connaît moins ce qu'il vit à l'intérieur de lui-même. Alors que Moïse, on participe à sa prière, à ses douleurs, à ses cris, à son... Moïse est un personnage qui arrive de manière très entière. Hein. Josué est tellement dans l'ombre de Moïse que... Josué est tellement dans l'ombre de Moïse que ce n'est pas sa personnalité qui est mise en avant. On a l'impression que ce qui va être déterminant pour Josué, c'est finalement sa mission, c'est son nom. Son nom en hébreu, c'est Yehoshua. Yehoshua, qui signifie... Jésus. Pardon ? Jésus. Alors, vous êtes déjà en train de faire le lien, voilà, c'est bien. Voilà, mais ça ne veut pas dire... Josué, c'est pas, ça ne veut pas dire Jésus. Hein. Jésus, ça veut dire quoi, alors ?
Yehoshua.
Ben, Yehoshua. Mais alors, Yehoshua, ça veut dire quoi ? Oui, mais avant d'être Jésus.
Sauve, Seigneur.
Le Seigneur sauve. Yeho, le Seigneur sauve. Yehoshua, le Seigneur sauve. Voilà. La personnalité de Josué s'efface derrière sa mission, derrière son nom, le Seigneur sauve. Et c'est pour ça qu'on le voit avec cette loyauté sans faille, son courage, sa fidélité à obéir aux ordres de la part de Dieu. Et une belle expression, hein, Josué ne s'écarte de la loi de Moïse, ni à droite, ni à gauche. Il est là où le Seigneur le demande, avec cette entièreté hein, de la fidélité, de la réponse à ce que Dieu lui demande. Voilà. Et là, on voit la figure de Josué, qui est véritablement, pour le coup, on arrive à la figure. Hein. Si on dit à quelqu'un, « Oh, t'as une personnalité débordante, on a du mal à te comprendre, mais au moins t'es présent », la personne va être valorisée. Voilà. Il y en a certains, on va dire, bah, « Finalement, tu n'es qu'une figure, en gros, quasiment qu'un figurant ». Alors, ce n'est pas le cas de Josué. Il va intervenir, il va agir. Quelqu'un qui a existé, qui avait une personnalité très belle. Mais ce n'est pas ce qui intéresse la Bible. Ce qui intéresse la Bible, c'est qu'il est au service d'une mission hein, capitale pour l'histoire du peuple d'Israël. Hein. Son nom, c'est Josué. À travers lui, le Seigneur va agir. Hein. Et Josué va se rendre disponible en obéissant à la loi de Dieu. Hein. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui confirme que Josué s'efface derrière celui qui va vraiment agir. Il est établi comme chef à la place de Moïse pour conduire le peuple d'Israël sur sa terre. Ça, j'ai insisté dessus. En réalité, le chef véritable, ce n'est pas lui, et il le sait. Hein? au moment d'engager la conquête du pays, donc ça se passe au début du livre de Josué, il a une apparition, un homme qui se présente comme « Je suis le chef de l'armée du Seigneur ». Et Josué ne dit pas « Attends, c'est moi le chef ». Non, on voit bien que Josué est déjà dans cette attitude d'obéissance. C'est quelque chose qui vient de plus grand que lui. Voilà. Un homme qui apparaît et qui dit « Je suis le chef de l'armée du Seigneur », c'est un procédé biblique parce que dans la Bible et encore dans le judaïsme, on ne désigne jamais Dieu de manière directe. C'est à travers des hommes, à travers des anges. Très souvent, on l'a vu avec Abraham, qui est précédé par les deux hommes qui le conduisent à Sodome, puis on se rend compte que c'est Dieu. C'est très très fréquent dans la Bible. Voilà. Donc c'est bien Dieu qui lui apparaît et qui lui parle avec exactement les mêmes mots que pour Moïse au buisson ardent. C'est les mêmes mots. Il y a plein d'endroits où vous verrez c'est les mêmes mots que pour Moïse. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Ça vous dit quelque chose? Ben là, il le dit à Josué. Donc Josué va faire la même expérience que Moïse. C'est le Seigneur qui lui apparaît. Et comme le Seigneur a envoyé Moïse pour libérer Israël d'Égypte, eh bien, le Seigneur envoie Josué pour aller jusqu'au bout de ce que Moïse a commencé pour entrer en terre promise. Grâce à l'obéissance sans faille de Josué, Dieu lui-même va mener son peuple vers la terre promise. Vous voyez que... Alors, les questions, à la fin, on essaiera de... Voilà, j'essaye d'aller assez vite. Voilà. Mais vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, regardez déjà ce qui se passera dans le Nouveau Testament. Jésus qui agit. Est-ce que c'est un personnage comme un autre personnage? Voilà. Ou est-ce que ce n'est pas à travers lui, Dieu lui-même? Deuxième point, alors là, on est dans la narration que nous connaissons bien, le passage du Jourdain et la conquête de la terre. Le passage du Jourdain et les conquêtes de la terre. Voilà, je le fais en quatre temps. D'abord l'ordre donné par Dieu, ensuite la traversée du Jourdain, puis la prise de Jéricho, moment qu'on attend avec impatience, qu'on aime bien en général quand il y a de la cavalerie, de la castagne, les chevaux et cavaliers, là qu'on est à Pâques, vous savez, ça on aime bien. Il y en a dans la Bible, il y en a beaucoup. Là vous allez être servi. Voilà. Prise de Jéricho et la conquête du pays. D'abord l'ordre donné par Dieu. Aussitôt après la mort de Moïse, le Seigneur dit à Josué, « Maintenant, debout, passe le Jourdain. Que voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. » Donc là, ça y est, l'action commence. C'est la grande œuvre qu'il aura à accomplir. Une étape essentielle de l'histoire sainte. Il s'agit rien de moins que de l'accomplissement de la promesse faite par Dieu aux patriarches de vivre sur la terre qu'il leur donnerait en pays de Canaan. Vous vous souvenez que quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit qu'il serait une bénédiction pour tous les peuples de la terre et qu'il le conduirait sur une terre où il s'établirait, lui et sa descendance, pour que cette bénédiction puisse prendre corps. Cette promesse faite au patriarche de recevoir une terre, la terre de Canaan, Dieu ne dit pas d'ailleurs « je vais te donner la terre de Canaan ». Parce que Dieu ne chosifie pas les choses, le pays. Il dit la terre que je te donnerai. Donc c'est Canaan, mais Canaan ne vaut que parce que Dieu l'a donné à Israël. Voilà. Donc Dieu l'a promis au patriarche, et de fait, Abraham s'est installé sur la terre de Canaan. Il a acheté la grotte de Macpéla pour y mettre les tombes, ce qui veut dire c'est une sorte de liens indissolubles avec le lieu quand il y a les tombes, la tombe d'Abraham et la tombe de Sarah. Mais il faut reconnaître que cette promesse de donner une terre où on peut vivre, ceux qui n'ont pas de terre, ceux qui sont exilés, savent que la terre, ça veut dire quelque chose. Un pays, ça veut dire quelque chose. Quand Dieu promet de donner un pays, c'est une promesse qui veut dire quelque chose. Or, cette promesse de donner un pays, elle ne s'est que partiellement réalisée. Il y a eu Isaac qui a vraiment... séjourner en terre sainte, en terre de Canaan, on en parle très peu dans la Bible, mais il y a eu Jacob, et à partir de Jacob, Jacob lui-même a fini sa vie en Égypte, et les 12 fils de Jacob se sont installés en Égypte. Et il s'est passé 430 ans. Donc l'histoire du peuple d'Israël, au moment de Moïse, elle s'est passée loin de la terre. Il n'y aura guère eu que Abraham à la fin de sa vie, Isaac et Jacob dans la première partie de sa vie, qui auront vu la promesse se réaliser. Donc il y a une attente. Voilà. avec Josué, la promesse se réalise. Vous voyez qu'il y a de la continuité dans la Bible, que la question de la fidélité, quelque chose de capital. Je dis un petit mot sur la question de la terre. Dans l'Ancien Testament, la terre a un rôle théologique fondamental. Ça, je viens de vous en parler. On ne peut pas vivre si on n'a pas de terre, si on ne peut pas poser les pieds. Les étudiants qui arrivent à Paris, leur grande difficulté, c'est d'arriver à trouver une chambre. Quelquefois, c'est une petite chambre de 8 mètres carrés. Mais on est heureux d'avoir un endroit où on peut poser les pieds, on ferme la porte, on est chez soi. Voilà. C'est une problématique très existentielle, très humaine, mais la Bible passe à travers ces réalités-là. Quelle est la condition pour pouvoir être en relation avec Dieu ? C'est de savoir où poser les pieds. Sinon, on sera toujours, Dieu nous dira des choses formidables, mais on dira, mais où est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez? Toute la perspective biblique, jusqu'à très très tard, associe la vie spirituelle avec la vie sur la terre. On ne parle de la résurrection et de la vie éternelle que assez tardivement dans l'histoire biblique. Il y a déjà des prophètes qui en disent quelques mots au moment de l'exil. Mais la vie avec Dieu, je serai avec toi, ça veut dire il y aura bien un lieu où tu pourras vivre. Et le psaume 116 le dit, on peut vivre je vivrai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il faut le prendre au sens très concret. Alors, notre réaction de chrétien, notre réaction pieuse, qui a réagi à une époque où on ne parlait que de l'horizon terrestre, on disait mais non, il y a les réalités spirituelles. Très bien, mais on va quelquefois un peu vite en besogne. On oublie qu'on peut dire ça parce que nous, on a la chance d'avoir un endroit où poser nos pieds. Or, la Bible prend l'humanité telle qu'elle est. Et l'Ancien Testament, question de la terre, une question fondamentale. Question théologique, fondamentale. La terre... Entrer dans la terre de la promesse, c'est avoir le moyen de vivre avec Dieu. Je rendrai grâce au Seigneur sur la terre des vivants, un psaume 116, qui est un psaume qui annonce la résurrection, mais on parle bien de la terre des vivants. La terre est un don d'alliance, un cadeau que Dieu fait comme signe de l'alliance. Dans le désert, Dieu a fait alliance avec Israël. Je fais alliance avec toi. Ben, normalement, quand il y a un mariage, il y a des cadeaux. Voilà. Eh bien, quelle est la dot pour Israël? Ça va être la terre. Dieu, voilà le cadeau d'alliance que je te fais. Mais de même que la terre a été donnée par Dieu à Israël, donc c'est un don, c'est pas en tant que tel une possession purement matérielle, et la relation avec Dieu est engagée, eh bien, de même, Dieu demande à Israël d'obéir à la loi pour garder la terre. Si Israël n'obéit pas à la loi, c'est-à-dire si il oublie l'alliance, il perdra sa terre. Une possession conditionnelle de la terre. Dieu donne un certain nombre de consignes à Israël en disant « Cette terre, je te la donne pour que tu puisses rendre gloire à Dieu. » Et de fait, c'est là qu'il y aura l'arche d'alliance, c'est là qu'il y aura un temple. Mais ça suppose que tu vives dans l'obéissance, dans la fidélité à ce que je t'ai demandé. Et la désobéissance d'Israël fait qu'un jour ou l'autre, comme l'annonçaient les prophètes, ben ça devait les conduire à perdre cette terre. Et quand ils se sont retrouvés, les Israélites se sont retrouvés exilés à Babylone, ben les prophètes ont dit, il y a eu cette désobéissance, ils disent c'est une raison de l'exil, il y a une désobéissance par rapport à la loi, par rapport à Dieu, et donc c'est le fruit amer en a été l'exil. Donc au retour en terre promise, en terre de Canaan, les Israélites se sont dépêchés de constituer la loi de Moïse, la Torah, d'y obéir de façon beaucoup plus rigoureuse. Voilà. Josué le sait bien, il a reçu la mission de la part de Dieu, il a reçu la mission de Moïse, et il sait que il est là pour accomplir cette mission d'obéissance à Dieu et que ça passe par l'obéissance à la loi. Aussitôt après la traversée du fleuve, une fois qu'ils sont sur la terre promise, eh bien, la première chose que fait Josué, c'est de lire l'intégralité de la loi de Moïse. On peut dire les 5 livres du Pentateuque, vous me direz, ils n'étaient pas encore écrits, mais on veut dire le noyau de la Torah. Il n'y eut pas un mot de tout ce que Moïse avait ordonné, qui ne fut lu par Josué en présence de toute l'assemblée d'Israël. Voyez. Donc il n'est pas simplement un conquérant qui dit maintenant la terre est à nous et on veut faire ce qu'on veut. Non, la première chose qu'on fait, c'est de se mettre à l'écoute du Seigneur. Il nous donne cette terre. Comment pouvoir vivre dans cette terre? Eh bien, en obéissant à la parole du Seigneur. Voilà. Théologiquement, c'est très très important. Le lien entre la terre et l'obéissance à la loi. Josué va donc mettre en place cette grande opération de la traversée du Jourdain. Il a dû de faire la traversée déjà de la mer morte quand il était tout jeune, de la mer rouge, pardon. Hein, donc il voit comment les choses peuvent se faire. Hein, et comme Moïse, eh bien, il va engager le peuple dans cette traversée du Jourdain. Alors, je passe tous les détails narratifs qui sont importants, mais on ne peut pas nous arrêter sur tous. Il commence par envoyer des espions pour explorer le pays, puis il met le peuple d'Israël en place pour traverser le Jourdain, comme Moïse l'a fait pour traverser la mer Rouge. Pour Moïse, il s'agissait de quitter une terre de servitude pour rentrer dans le désert, la terre de l'Exode. Avec Josué, il s'agit de quitter le désert pour entrer dans une terre donnée par Dieu. Voilà. Donc, il y a bien un passage qui va s'opérer, passage de la mer Rouge, passage du Jourdain, hein, d'une terre à l'autre. Donc on peut mettre les deux figures en parallèle, hein, d'une terre à l'autre en passant à travers l'eau. Mais il y a des différences. La première différence, c'est quitter la terre de servitude pour l'un, et l'autre, c'est entrer dans la terre donnée par Dieu. Entre les deux, c'était le désert. Une deuxième différence, et qui compte aussi dans l'histoire de Josué. On peut faire un parallèle, comme je vous l'ai dit, entre la traversée du Jourdain et la traversée de la mer. La traversée des eaux comme une étape décisive. On franchit une frontière. Les eaux constituent une frontière. On franchit une frontière. Mais est-ce qu'il y en a qui ont vu le Jourdain ? Alors, je sais certains, oui, récemment. Voilà. D'autres, oui, depuis plus ou moins longtemps, on a vu le Jourdain. Est-ce que vous imaginez la mer Rouge comme le Jourdain? Non. Et vous avez raison. Hein, parce que ça devait être beaucoup plus immense. Et même si, probablement, il y avait des marécages, etc. Mais le récit biblique, on imagine une mer très grandiose. Il s'agit donc d'une traversée qui est décrite comme un événement beaucoup plus modeste que celui de l'Exode. Il y a dans la Bible, hein, dans le livre du Pentateuque et puis dans tout l'Ancien Testament, un procédé que j'appellerais de rétrécissement. Hein, comment on appelle ça, rapetissement. Ça va comme terme? Rapetissement. Tout le monde voit ce que je veux dire. Merci à vous. Voilà. À mesure qu'on avance dans la Bible, en particulier ce qui concerne le don de la loi. Dans le livre d'Isaïe, on dit « la loi vient de Sion ». En réalité, la loi a été donnée sur quelle montagne ? Le Sinaï, l'Horeb, grande montagne fumante, hein, au milieu des éclairs, montagne fumante, hein, comme dit le psaume. Eh bien là, la Torah est donnée de Sion. Sion, c'est une petite montagne. La montagne de Sion, les montagnes l'entourent. Donc, ce n'est pas la plus grande montagne. De la même manière, Dieu a donné la loi à Moïse dans les éclairs et le tonnerre. Quand il parlera à Élie, ce sera au même endroit, le mont Horeb, mais ce sera dans la voie d'un fin silence. Vous voyez ? Eh bien, il en va de même pour Israël. Dieu agit de façon forte, hein, à main puissante et à bras étendus, comme dit l'Exode. Hein, Dieu agit avec force, d'une certaine manière, pour casser le cours de l'histoire, pour casser le cours de l'histoire quand elle va vers la mort. Donc Dieu agit de façon très forte. Et une fois que Dieu est intervenu, il va continuer d'intervenir, mais de telle sorte que le peuple puisse se laisser toucher à l'intérieur, puisse entrer dans le processus. Que ce ne soit pas simplement une action puissante de Dieu, mais que ce soit une action qui atteigne le cœur de l'homme. Et tous ces procédés de rétrécissement, la grande montagne et la petite montagne de Sion, les éclairs et la voie du fin silence, la grande mer et le petit fleuve, tout ça, ça montre que Dieu agit dans l'histoire. Quand on parlait de l'histoire tout à l'heure, on aurait pu dire, si on n'avait pas cette vision historique, Dieu a donné la loi au Sinaï, point barre, ça y est, il y a la loi, maintenant tu te débrouilles avec. Oui, mais le peuple d'Israël se tenait à distance. C'était dur pour Israël d'entendre la voix de Dieu. Il disait à Moïse, si le Seigneur pouvait ne pas parler, parce que c'est insupportable. C'est horrible de parler de Dieu comme ça, mais c'est ce que dit le peuple. Mais il y a tout un cheminement dans lequel petit à petit le peuple va... Comme dit saint Irénée, il y a une accoutumance. Il emploie le terme, il y a une accoutumance. Vous devinez comment cette histoire nous prépare à l'incarnation, hein, où la voix de Dieu finalement se fera entendre dans un petit enfant, c'est-à-dire dans le petit gémissement d'un bébé dans les bras de sa maman à Bethléem. Ben, ça a commencé, on peut dire, à la mer Morte, la traversée de la mer Rouge, puis la traversée du Jourdain, ce rétrécissement, Dieu se fait proche et permet à l'homme de prendre le rythme et de s'y mettre à son tour. C'est d'un point de vue narratif, c'est très important dans la Bible, mais théologiquement, ça veut dire quelque chose, et spirituellement, bien sûr. Et là, on voit bien comment, dans le cadre davantage à la mesure de l'homme, que la traversée de la mer Rouge, là c'est la traversée du Jourdain, on voit que les Israélites semblent moins perdus qu'ils ne l'étaient dans le cadre grandiose de la mer Rouge. Souvenez-vous, ceux qui ont suivi le cours l'an passé, vous connaissez le texte de l'Exode, ils disaient « on ne veut pas quitter l'Égypte, on a peur ». Puis il y avait les grandes murailles de mer, et Moïse qui disait « suivez, pas la peine, enfin, taisez-vous, vous n'avez qu'à suivre ». Enfin, on sentait que c'était violent, que c'était dur pour eux, c'était trop grand. Ils étaient encore abrutis par l'esclavage. On a beaucoup assisté dessus l'an passé. Ils avaient encore la mentalité d'esclaves, incapables de prendre des initiatives. C'était une humanité esclave, une humanité écrasée. Et bien maintenant, on va avoir ce parallèle qui est tout à fait voulu. Traverser des eaux, les eaux vont se séparer, pareil, pour passer à pied sec. Mais là, c'était Moïse qui, avec son bâton, avait dû séparer les eaux et le peuple avait, si on peut dire, passivement suivi. Là, cette fois-ci, les flots ne se séparent que quand les prêtres qui portent l'arche posent les pieds au milieu du fleuve. Donc cette fois-ci, le peuple d'Israël est partie prenante. Il est partie prenante. Il n'est pas passif. Il a enfin trouvé sa place. Il y a des quantités d'autres détails. À la sortie d'Égypte, on décrit les Israélites comme un peuple, comme une horde, le chaos de hurlements sauvages. J'aime beaucoup cette expression, le chaos de hurlements sauvages qu'on entend dans le désert. Ça, ce sont les Israélites qui viennent d'être libérés d'Égypte. Un chaos de hurlements sauvages. Des esclaves fugitifs, évidemment. Cette fois-ci, il s'agit d'une grandiose procession liturgique. Voilà. Je n'ai pas commencé dans votre paroisse, j'espère que ce n'est pas un chaos de hurlements sauvages. Non, c'est servant d'hôtel un peu excité ou un chant un peu trop tonique ou je ne sais pas quoi. Voilà, mais évidemment, le chaos du hurlement sauvage, c'était une expression de cette déshumanisation du peuple d'esclaves à peine libérés. Là, il y a eu 40 ans de cheminement où Israël a appris à écouter la voix de Dieu. 40 ans de retraite spirituelle, ça finit par transformer son personnage. Voilà. Là maintenant, le Seigneur, c'est là qu'on voit comment, quand le Seigneur intervient, il valorise la personne, il lui donne toute sa pleine participation. Ça, voilà, magnifique. Le peuple d'Israël est dans une grande procession liturgique. Alors ça, c'est un point très important. Il y a quelque chose de liturgie dans l'entrée en terre promise. C'est une liturgie, une grandiose procession liturgique. Alors nous arrivons à la prise de Jéricho. Enfin, vous dites, toi, il dit la liturgie, mais les chaos de l'environnement sauvage, là, ça va donner. Prise de Jéricho, en fin de l'action. Eh bien non, la prise de Jéricho n'est pas un western. Même s'il s'agit de passer de l'est à l'ouest, ce n'est pas un western. En réalité, nous restons dans un cadre liturgique. La prégnance de la liturgie est un élément clé de la compréhension du livre de Josué. Il y a bien sûr des opérations militaires, et Josué se présente comme un chef militaire. Mais une lecture attentive, et pas compliquée, une simple lecture du récit montre que l'entrée dans la terre promise, c'est d'abord une action liturgique. Et on le vérifie, cela se vérifie en ce qui concerne la ville de Jéricho. Jéricho, c'est la première ville que les Israélites rencontrent après avoir traversé le Jourdain. Ce qui se met en place, c'est une grande liturgie autour de l'Arche d'Alliance. Le peuple va marcher autour de la ville pendant 7 jours, en suivant 7 prêtres qui sonneront de la trompe. Le chiffre 7, c'est un chiffre liturgique, c'est le rythme de la semaine, on l'avait pour le premier récit de la création. Voilà. Le tour de la ville pendant 7 jours, en suivant 7 prêtres qui sonneront de la tombe. Le 7e jour, la procession fera 7 fois le tour de la ville. Et le 7e jour, alors c'est sûr qu'il est dit au peuple, il faut que tu pousseras le cri de guerre et tu monteras à l'assaut, mais vous verrez que ça tient en 2 ou 3 versets. La liturgie, elle tient dans tout le chapitre. Donc, les murailles s'effondrent, le peuple pousse le cri de guerre, il monte à l'assaut, mais on ne parle pas de bataille, on parle des murs qui se sont effondrés, on parle de la ville qui est livrée au pouvoir des Israélites. Les murailles s'effondrent et le peuple n'a qu'à s'emparer de la ville. Alors, je vais faire un petit détour par l'archéologie. Ce n'est pas trop l'habitude, je sais que ça peut en décevoir quelques-uns, mais vous savez qu'il faut beaucoup se méfier de l'idée que l'archéologie confirmerait ce que dit la Bible. En réalité, l'archéologie, c'est un domaine particulier. La Bible, c'est un autre domaine. Quand il y a des concordances, tant mieux, mais la Bible ne dépend pas de ce que dit l'archéologie. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je ne sais pas s'il y a des archéologues parmi vous, des scientifiques, mais un scientifique, il aime bien travailler sans qu'on lui dise quel est le résultat qu'il faut qu'il trouve. Voilà, l'archéologue, il cherche et il trouve des choses. Alors ensuite, ça pourra nous éclairer ou pas. Une petite parenthèse sur la question de l'archéologie. On a employé le terme d'archéologie biblique. C'est un terme qui n'est pas tout à fait juste. Il y a de l'archéologie des pays de la Bible. Ben oui, on a un archéologue parmi nous. C'était les protestants qui voulaient absolument montrer au XIXe siècle que la Bible disait vrai. Alors il y a eu quelques déconvenues et puis il y a eu quelques heureuses découvertes. Mais l'archéologue, il va arriver à un certain nombre de conclusions qu'il va mettre ensuite au service des biblistes. Les biblistes diront, ben là, ça peut être intéressant, là. Mais on ne confond pas les disciplines. Ça, c'est très, très important. Très, très important. Ils savent, parce que je sais qu'il y a quelquefois des enthousiastes, et ça y est, on a trouvé la preuve que, ouais, mais si à un autre endroit, l'archéologie dit, désolé, mais on n'a rien trouvé, alors il y a tout qui s'écroule. Il y a bien des domaines de la Bible, on n'a aucun élément archéologique. Voilà. Donc, il faut être très, très prudent. Toujours est-il que pour Jéricho, voilà comment les choses se sont présentées. La chronologie traditionnelle place l'arrivée des Israélites en terre promise autour de l'an 1200 avant Jésus-Christ. Une autre chronologie la place autour de l'an 1400-1450. Bon. Ce qui est sûr, c'est que les fouilles de Jéricho qui ont fait parler d'elle, parce que c'est une grande figure de l'archéologie, Miss Kathleen Kenyon, dans les années 50, une archéologue anglaise. Ces fouilles ont montré que les murailles de Jéricho avaient été détruites par les Égyptiens en 1550 avant Jésus-Christ, au XVIe siècle. Et que, même dans l'hypothèse la plus proche, d'une arrivée au XVe siècle avant Jésus-Christ, quand les Israélites sont arrivés, les murailles étaient détruites. Alors voilà, je casse peut-être un imaginaire ou un mythe, mais c'est la réalité. Et il vaut mieux savoir comment comprendre les choses plutôt que se dire, ah ben zut, ils nous cassent la baraque. En l'occurrence, il s'agit de murailles qui sont cassées. Donc, pas moi qui les casse. Voilà. En fait, Alors, je vous rassure, il y a bien des passages dans la Bible où on parle de bataille et on pense que historiquement il y a une chose et que l'archéologie pourra montrer que c'était bien le cas. Voilà, d'accord. Hein. Notamment les batailles autour de Jérusalem, on a quelques traces des constructions des murailles, des destructions. Donc, il y a bien des endroits où ça peut se vérifier. Mais là, en l'occurrence, les murailles étaient détruites. La Bible nous dit, le Seigneur dit dans le texte biblique, « Je livre entre tes mains Jéricho. Je livre entre tes mains Jéricho. » Et on a bien vu que Josué était au service du Seigneur lui-même qui allait intervenir. C'est par l'action de Dieu et non par celle d'Israël, ni même de Josué, que s'accomplit la promesse de la possession de la terre. C'est Dieu qui donne à Israël la terre. Et Israël ne peut pas dire « Nous avons conquis Jéricho, nous avons conquis la terre. » Israël a reçu cette terre. Et les murailles qui s'effondrent disent bien « Ce n'est pas toi qui as agi. » Oui. Alors, ça laisse la question énorme des descriptions guerrières qu'il y a dans le livre de Josué. C'est le dernier point que je voudrais voir avec vous. La conquête du pays. Le livre de Josué compte les récits parmi les plus violents de la Bible. Alors, c'est vrai, en même temps, au début, quand je ne lisais pas beaucoup la Bible, j'avais entendu ça, puis j'ai découvert des récits quelquefois bien plus épouvantables encore dans d'autres livres bibliques. Malheureusement, la violence est très très présente. Dans le livre de Josué, il y a des actions guerrières de conquête. Dieu demande à Josué de conquérir le pays et à plusieurs reprises, il lui ordonne d'exterminer tous les habitants des villes conquises. C'est assez épouvantable. Voilà, tu extermineras tous les habitants des villes que tu auras prises. Jéricho est voué à l'anathème, tous les êtres vivants, hommes et animaux, sont passés au fil de l'épée. Mais vous l'avez bien compris, d'après ce que je vous ai expliqué, qu'il s'agit d'une vision idéalisée de la réalité. Les exégètes se sont beaucoup posé la question, et la réponse paraît quand même assez évidente. Comment un peuple d'esclaves mal dégrossis, en 40 ans, va pouvoir constituer une armée au moins aussi forte que celle qu'elle va trouver en Canaan, qui, elle, était beaucoup plus organisée. À Canaan, ils avaient la maîtrise du fer, du bronze. Le fer permettait d'avoir des armes. D'ailleurs, on parle bien des Cananéens qui ont des chars avec, et des chevaux. Ils ont des épées, ils ont des chars. Ils sont organisés. Vous avez des cités cananéennes que l'on voit comme à Arad, qui sont des cités gigantesques. Quand vous voyez les villes construites par les Israélites, je pense spécialement à la ville d'Arad, gigantesque cité cananéenne, les Israélites arrivent, c'est une toute petite cité, 10 fois plus petite. Donc il y a une espèce d'affaissement culturel. On imagine, enfin, ce que l'on sait du peuple d'Israël arrivant d'Égypte, c'est que on imagine mal qu'ils soient avec leurs armes, leurs chevaux, leurs, qu'ils aient le moyen de conquérir le pays tel que c'est raconté. Il est fort probable que il y ait une projection, comme cela arrive très souvent dans la Bible, d'une époque, l'époque royale, on va idéaliser l'époque de Josué, mais en racontant des événements qui, pour le coup, ont eu lieu à l'époque royale, c'est-à-dire quelques siècles plus tard. Un élément historique intéressant dont témoigne la Bible, c'est que quand on lit le livre de Josué, on a l'impression que tous les païens ils sont ratiboisés, ils n'existent plus. Tu livreras la ville à l'anathème, conquiert toutes les villes et il supprime tous les païens. Vous avez un autre livre biblique, ça répond un peu à la question que vous posiez, une autre question qu'on posait pendant le dîner. Un autre livre biblique est le livre des juges, qui historiquement est probablement plus proche de la réalité. Dans le livre des juges, on voit que les païens ils sont toujours là, que les cananéens sont toujours là, et que Israël a dû apprendre à vivre au milieu de populations païennes qui n'ont pas été exterminées. Donc l'extermination des peuples dont parle le livre de Josué, ça a été des batailles bien postérieures, qui permettent de dire, voilà, prise de possession du pays de façon radicale, mais la réalité historique, il est peu probable que cela ait été soit passé de cette manière. Le livre de Josué raconte, ben, on connaît l'histoire de Samson, on connaît l'histoire de Jephté, hein, c'est toujours, il y a Israël qui est plutôt dans les collines à garder les moutons, les Cananéens qui sont dans les plaines à cultiver le blé, hein, et il y a eu l'apprentissage de cette cohabitation difficile. D'ailleurs, le Seigneur avait dit à Abraham, « Je te donnerai ce pays avec les Amorites, les Hittites, les Jébuséens. » Il avait bien dit à Abraham que le peuple d'Israël serait avec les autres peuples, qu'il ne serait pas seul. Ouais. Donc, ça nous éclaire ensuite beaucoup sur les problèmes qu'il y a eu dans la suite dans la Bible, et on peut dire encore après. Voilà. Alors, ouais, toujours eu des populations cananéennes et Israël, en Israël, une cohabitation, la phrase est une petite erreur, une cohabitation qui n'a jamais cessé. Alors, il n'est pas question de contester la réalité historique de l'arrivée du peuple d'Israël en terre de Canaan. Ce qui est plus contestable, c'est le récit qui en est fait. En fait, on retrouve quelque chose que je vous ai dit chaque année depuis que je vous parle de l'Ancien Testament, c'est qu'il y a bien un substrat historique, il y a bien une histoire. La Bible nous renvoie à une histoire, mais cette histoire est une histoire interprétée. Elle est nécessairement interprétée. Elle est toujours interprétée. Alors, à certains moments, on va faire des récits historiques qui veulent être au plus près de la réalité. C'est notre vision moderne de l'histoire. Et heureusement, il y a des historiens aujourd'hui qui arrivent à dire les choses au plus près de la réalité. Mais déjà, même l'histoire moderne, un historien ne peut s'empêcher d'avoir son vocabulaire, ses choix, ses catégories. Voilà. Alors, encore plus dans la Bible, qui ne prétend pas faire de l'histoire, mais montrer comment Dieu se révèle. Et donc, certains livres bibliques ont été l'objet d'un travail, hein, d'une relecture. C'est le cas pour le livre de Josué. C'est le cas pour l'histoire d'Abraham. Personnellement, je crois tout à fait qu'Abraham a existé. Pour moi, ça ne pose aucun problème. Qu'il ait été appelé par Dieu. Mais il y a des quantités de choses dans l'histoire d'Abraham. Historiquement, ça ne tient pas. Quand on parle des chameaux, l'histoire des Ismaélites qui emmènent le petit-fils d'Abraham, la Joseph, en captivité, à l'époque d'Abraham, le chameau n'était pas domestiqué. Hein. Donc l'utilisation des chameaux, c'est beaucoup plus tardif. Ça date du Xe siècle. Abraham, c'est le XIXe siècle. Donc on voit bien qu'il y a une réécriture plus tardive. Donc ce que je vous dis là, il ne faut pas que vous reveniez chez vous en disant « Le Père Lepravier nous a complètement cassé la maison, il ne reste plus rien ». Non, il reste une histoire, mais c'est une histoire qui est interprétée. C'est ça la Bible. Donc sortons des débats, est-ce que la Bible dit vrai ou elle dit faux? Ce n'est pas le problème. La Bible, elle dit vrai au sens où elle traduit la parole de Dieu qui s'est révélée dans un peuple, dans le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël, il y a à la fois l'événement et la compréhension et l'expression et le texte biblique qui a sa valeur aussi en lui-même. Voilà. Donc, il y a des indications historiques. Par exemple, je pense à un autre événement historique, la ville de Hatsor qui est brûlée par Josué. Donc, on se place à une époque. On a retrouvé... le récit biblique dit que la ville de Hatsor, qui est au nord d'Israël, disparaît sous un grand incendie. Et on a retrouvé des traces d'incendie probablement de cette époque. Donc ça montre bien qu'il y a des éléments historiques tout à fait possibles, probables. Les archéologues vont dire, là, voilà, on peut dater de l'époque de Josué cet incendie. Et là, voilà. Mais comme la problématique de l'auteur de Josué, c'est de refondre dans une grande vision de Dieu donne la terre à Israël, et cette terre, elle va lui être donnée de manière totale, avec ses visions totales du livre de Josué, un peu idéalisées, eh bien, on a ces récits très violents, notamment la question de l'extermination des païens, qui exprime une réalité religieuse. Tout doit être consacré au Seigneur sans mélange. Il ne s'agit pas en tant que tel de détruire des vaincus, pour dire ils ont perdu, ils vont être exterminés, mais de présenter à Dieu un pays pur de tout élément hétérogène, comme les sacrifices offerts au temple. Au temple, on offre des sacrifices, on brûle tout ce qui doit brûler, tout ce qui doit disparaître. Donc c'est une vision, je veux dire encore une fois, très liturgique des choses. La pureté d'Israël, voilà. C'est la vision du livre de Josué, celle du livre des juges sera très différente, plus proche d'une réalité assez complexe. Voilà. Alors, j'arrive à la deuxième partie, au moment où je devrais terminer, mais je vais être beaucoup plus rapide, et je pense que ce lien figuratif de la figure avec Jésus, vous l'avez fait par vous-même. Premier point, l'histoire de Jésus, c'est l'histoire d'un accomplissement. Jésus accomplit les Écritures. J'espère qu'une autre année, on aura l'occasion d'approfondir cela. Tout ceci advint afin que soit accomplie la parole des prophètes. Vous connaissez cette formule. Vous savez que selon la catéchèse la plus ancienne, vous savez que il y avait un modèle de catéchèse pour parler du Christ, d'enseignement de la foi, et on l'a dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10. On commençait l'itinéraire de Jésus avec le baptême de Jean, son ministère en Galilée, sa mort et sa résurrection. Baptême de Jean comme point de départ. La grande mission de Jésus, c'est le baptême de Jean. L'évangile le plus ancien, c'est celui de saint Marc. Il commence avec le baptême de Jean. Précisément, le baptême de Jean, enfin de Jésus par Jean, il a lieu à l'endroit même où Josué est passé, est entré en terre promise. Donc quand Jésus rejoint Jean à cet endroit-là, il va se retrouver à l'endroit où Israël est entré en terre promise. Le baptême de Jean, c'était un baptême de confession des péchés. Ils avaient été infidèles à la loi, eh bien, ils sortaient provisoirement de la terre, puisqu'ils allaient du côté du désert, pour rentrer de nouveau en terre promise. C'est ça le baptême. C'est entrer de nouveau en terre promise. Les Juifs arrivaient de l'ouest du Jourdain, vous voyez la carte, il n'y a pas de carte comme dans les classes de catéchisme, les grandes cartes, je crois que je viens avec. Vous voyez la carte, la Palestine au temps de Jésus. C'est amusant dans le terme de Palestine. Palestine, ça veut dire la Philistie. Voilà, donc l'évangile, encore une parenthèse, l'évangile de saint Matthieu emploie trois fois. Il parle du pays à trois reprises, il emploie le terme d'Israël. Mais on s'est habitué dans l'Église à employer le terme de Palestine. Vous devinez que tout ça, ça ressort aujourd'hui avec des questions politiques très compliquées. Voilà. Donc on parle du territoire d'Israël. Les Juifs quittaient la terre d'Israël, qui était à l'ouest, le Jourdain était à l'est, ils rejoignaient la rive est. Il faut lire saint Jean qui donne les indications géographiques. C'est souvent saint Jean qui est le plus précis au niveau chronologique et géographique. Ils étaient du côté du désert, ils écoutaient Jean-Baptiste qui les appelait à obéir à la loi, à changer de vie. Vous vous souvenez, Jean-Baptiste qui dit, toute la prédication de Jean-Baptiste. Après avoir écouté la parole prophétique de Jean, ils étaient plongés, en hébreu baptizein, ils étaient plongés dans les eaux du Jourdain avant de ressortir sur l'autre rive, celle de la terre que Dieu a donnée à leur père. Ils étaient alors capables d'être fidèles à l'alliance avec un cœur renouvelé. Vous avez compris que le baptême de Jésus, c'est se mettre dans la situation du peuple au désert pour entrer de nouveau dans la terre promise. Seulement cette fois-ci, c'est Jésus lui-même, nouveau Josué, comme on va le voir tout à l'heure. De fait, Jésus n'a pas été infidèle à l'alliance. Comme Josué, il ne dévie ni à droite ni à gauche de la loi de Dieu. Il se soumet pourtant à ce baptême. Il est solidaire de l'humanité pécheresse. Il se soumet au baptême alors qu'il n'en a pas besoin. Ça veut dire c'est facile de dire à quelqu'un « t'as fait des bêtises, tu vas réparer ». C'est ça le baptême de Jean. Jésus, lui, dit « j'y vais ». Il y a Jean-Baptiste qui dit « mais t'as pas fait de péché, t'as pas de raison de le faire ». Laisse faire, c'est ce que Dieu a demandé. Il convient d'accomplir toute justice. Qu'on vient d'accomplir ce qui est juste. Voilà, c'est une préfiguration de la croix et de la résurrection. Jésus qui se soumet à ce passage, cette transformation. Voilà. Eh bien, les Israélites, en suivant Jésus, sont comme les Israélites qui ont suivi Josué à travers les eaux du Jourdain pour entrer en terre promise. Et le passage dans la terre promise, c'est évidemment la figure, c'est la terre des vivants, dont on parlait tout à l'heure, figure de la vie éternelle, pour vivre avec Dieu. Voilà, j'accélère un peu parce qu'il est l'heure. Vous relirez chez vous. Voilà. Le deuxième point, avant même le baptême de Jean-Baptiste, il y a une autre référence fondamentale à Josué. C'est l'ange qui annonce à Joseph, l'époux de Marie, au sujet de la venue d'un fils, « Tu l'appelleras du nom de Jésus », en hébreu, « Tu l'appelleras du nom de Josué », parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est la traduction en langue moderne qui fait que Jésus et Josué, c'est le même prénom, sont distincts, mais en fait, c'est le même prénom. Dans le commentaire du livre de Josué, est-ce que c'est Origène, il met le nom Jésus pour parler de Josué. C'est la même chose. Yéhoshua, c'est-à-dire le salut de Dieu. Il y en a un qui en a été la figure, l'autre en a offert la réalité définitive. L'autre différence de taille, évidemment, entre Josué et Jésus, c'est que Josué a accompli la traversée de la mer au bénéfice seulement d'Israël. Jésus va faire cette traversée, ce baptême, au bénéfice de toute l'humanité. Je conclus. Jésus est le nouveau Josué. Le sauveur qui nous fait entrer... Ça va, vous êtes tous complètement morts ?
Non.
Ah zut alors. Bon, on reprend une demi-heure. J'ai pas réussi mon coup. Jésus est le nouveau Josué, le sauveur qui nous fait entrer dans le repos promis par Dieu. La terre conquise par Josué offrait un repos provisoire. Vous avez toute une typologie développée dans l'épître aux Hébreux au chapitre 4, qui reprend ce thème du peuple au désert et Josué qui fait entrer dans le repos définitif. Eh bien, l'épître aux Hébreux dit « Jésus nous a fait entrer dans le repos définitif ». Et désormais, ça c'est très important, tout le ministère de Jésus se passera uniquement sur la terre d'Israël, presque uniquement. À de rares moments, il ira du côté de Tyr ou en territoire païen. Mais il est sur cette terre qui est la terre de l'accomplissement des promesses. Ça a une signification théologique de première importance. Voilà. Écoutez, on a commencé à 5, on finit à 6. Ça fera 1 heure et 1 minute. Voilà. Ça va, il n'y a pas de grosses questions qui... Voilà. Eh bien, vous pouvez rejoindre les complis. Et la prochaine fois, nous verrons deux figures liées au patriarche, Isaac, puis la fois suivante, Jacob, eux aussi figurent de Jésus. Voilà. Bonne fin de soirée.